Les deux orphelines, première partie, chapitre 15. Lorsqu'elle avait entendu l'appel désespéré que lui adressait sa sœur, Louise avait poussé un cri terrible. « Attends-moi, je viens !» disait-elle d'une voix saccadée et que l'émotion rendait haletante. Et la malheureuse aveugle avait, hélas, essayé de se diriger les mains tendues en avant. Elle s'était ensuite arrêtée pour appeler. « Henriette ! Henriette, réponds-moi ! Henriette !» Et ne s'expliquant pas tout d'abord ce silence qui s'était fait si vite autour d'elle, elle écouta. Rien. Elle était donc seule au milieu de la rue, puisque personne n'avait répondu à ses cris. Seule. Seule et aveugle. Elle ne pouvait croire à cet horrible malheur. Pourquoi aurait-on emmené Henriette sans elle? La pauvre enfant ne pouvait soupçonner la vérité, ni se rendre compte de la situation terrible dans laquelle subitement elle se trouvait plongée. Reprenant courage, elle s'efforça de calmer le trouble de son esprit. Et de nouveau, avec force, elle appela sa sœur. Elle appela, passant de la voix calme qu'elle s'était imposée à cet accent déchirant que donne l'épouvante. Elle appela en se tordant les bras de désespoir, et sa sœur ne lui répondait pas. Alors l'affolement arriva, désespéré, terrible. La malheureuse aveugle avançait, tendant les mains pour chercher un point d'appui, et ses mains ne rencontraient que le vide. Elle voulut marcher, mais dans sa précipitation, elle trébucha contre le banc. Elle était prosternée maintenant. La prière lui vint subitement aux lèvres, et en une seconde, elle éleva sa pensée vers Dieu. Courte et fervente prière, après laquelle elle espéra. Il lui semblait que Dieu l'avait entendue et que la Providence allait venir à son secours. Plus calme, le cœur réconforté par l'espérance, elle appela de nouveau. « Henriette ! Henriette, où es-tu ? » Il lui sembla qu'une voix étouffée avait répondu à cet appel par un cri. Mais ce cri ne s'était pas renouvelé. Ce cri étouffé, c'est Henriette qui l'a poussé, Henriette qu'on entraîne loin d'elle et qui ne peut s'arracher des mains de ses ravisseurs. Non, elle ne se trompe pas, on a prononcé son nom. Elle a entendu de loin ce nom arriver faiblement jusqu'à elle. Louise ! C'est dans un moment où rien ne pouvait dominer son énergie qu'Henriette a répondu à son appel. L'espoir traverse comme un éclair l'esprit de Louise. Sa sœur va revenir auprès d'elle. Il est impossible qu'il n'en soit pas ainsi. Oui, Henriette va revenir. Peut-être a-t-elle pu déjà, en se débattant, échapper aux mains qui la retenaient. Elle va venir. Dans quelques instants, elle pressera sa pauvre sœur sur son sein. Louise, pour mieux entendre, fait taire les battements de son cœur. Elle écoute, l'oreille tendue, retenant sa respiration, afin de percevoir même le bruit le plus léger. Il y a quelques instants à peine qu'elle a été brusquement séparée de sa compagne, et cependant, il lui semble qu'un siècle s'est écoulé depuis qu'elle est seule, à cette place, où on l'a abandonnée. Elle écoute. Plus rien. Pas un cri. Rien. Le silence absolu. Et Louise écoute toujours. Cette fois, cependant, elle a entendu. C'est le roulement d'une voiture. Une voiture ? C'est peut-être celle que M. Martin avait, disait-il, retenue, et qui revient sur la place, pour l'emmener aussi. Ou bien c'est quelque carrosse qui va passer tout près d'elle. Alors elle pourra crier. Le cocher s'arrêtera. Elle expliquera ce qui lui arrive. Louise est demeurée silencieuse pendant quelques secondes, écoutant si la voiture s'avance vers l'endroit où elle se trouve. Non, le bruit s'éloigne. Elle ne peut plus en douter. Ce n'est déjà plus qu'un roulement sourd qui se perd bientôt tout à fait. Une pensée lui vient, pensée affreuse. L'homme qui s'est présenté à elle et à sa sœur n'était pas M. Martin. La lumière jaillit dans son esprit. Sans s'expliquer comment cet homme les connaissait, sans se demander par quelle série de circonstances elles avaient été, elle et Henriette, les dupes et les victimes de quelque mystérieuse combinaison, la malheureuse ne s'arrête qu'à cette pensée affolante. On enlève Henriette. On enlève sa sœur. Alors, plus d'espoir, plus de résignation. Plus de courage. Louise pousse des cris lamentables. Puis, épuisée, écrasée sous le poids de sa douleur, elle tombe à genoux sur le sol. Et levant ses yeux éteints vers le ciel, elle s'écrie « Venez à mon secours, mon Dieu !» Elle était restée à genoux, n'osant plus se relever. Qu'aurait-elle pu faire, dans l'impossibilité où elle se trouvait de se diriger? Tout à coup, un nouveau roulement de voiture se fit entendre. Et, avant que Louise ait pu se rendre compte de la direction que suivait le véhicule, la voix du cocher lui cria « Gare ! Et gare donc !» Elle poussa une exclamation d'effroi, et pour échapper au danger qui la menaçait, la pauvre aveugle allait tantôt à droite, tantôt à gauche, puis s'arrêtait de nouveau en hésitant. « Mais gare donc, mille tonnerres !» criait le cocher en s'efforçant de retenir ses bêtes. Louise, affolée, suppliait qu'on lui indiquât ce qu'il fallait faire. Et dans son trouble, elle s'écriait « Arrêtez, monsieur, au nom du ciel, arrêtez !»« Rangez-vous de côté !» hurla l'automédon. « Je ne suis plus maître de mes chevaux !»« De quel côté ?» demanda Louise en joignant les mains. « Dites-le-moi de grâce, je ne sais pas, je suis aveugle !» Un cri terrible avait seul répondu. Et Louise, enlevée par des bras vigoureux, se sentit attirée violemment. En même temps, la voiture, lancée à fond de train, passait si près que les roues frôlèrent l'épaule de l'aveugle. « Il n'était que temps !» grommela le cocher. « Je ne pouvais plus retenir ces carcans-là » La jeune fille, morte de peur, n'avait pas trouvé un mot pour remercier la personne qui était accourue si à propos pour l'empêcher d'être écrasée. Celui qui l'avait secouru, dans ce moment de danger imminent, restait là, devant la jeune fille, comme stupéfait d'avoir eu la présence d'esprit et la force d'arracher cet enfant à la mort. Il était, maintenant que la réaction s'opérait en lui, singulièrement ému, cet homme. Presque autant que celle qui lui devait la vie, car lui non plus n'avait pas de voix et ne trouvait pas une question à adresser à cette jeune inconnue. Aussi allait-il se retirer lorsque Louise, revenant à elle-même, murmura « Qui dois-je remercier de m'avoir secouru ?» Et comme tout surpris et, disons-le, très intimidé, l'homme ne répondait pas, la jeune fille ajouta « Serait-il parti, déjà ?» Il y avait un accent si douloureux dans cette voix que l'homme, qui avait jusque-là gardé le silence, prononça ces mots. « Non, mademoiselle, je suis encore là, mais je n'ai pas mérité tant de remerciements. J'ai fait ce que tout le monde aurait fait à ma place. » Puis, s'apercevant que la jeune femme tremblait de tous ses membres, il ajouta « N'ayez pas peur, mademoiselle, il n'y a plus rien à craindre. » Alors, Louise, rassurée sur le danger qu'elle avait couru, se rappela dans quelle triste situation elle se trouvait. Elle porta vivement les mains à ses yeux pour essuyer les grosses larmes qui glissaient le long de ses joues. Et d'une voix entrecoupée de sanglots, « mon Dieu » dit-elle, « que vais-je faire maintenant? Que vais-je devenir? Que vais-je devenir? Pourquoi vous lamentez comme ça ?» demanda aussitôt le rémouleur. Car le sauveur de l'aveugle n'était autre que le second fils de l'affrochard, Pierre le Boiteux, Pierre le rémouleur. Il s'en revenait de reporter de l'ouvrage dans le quartier, et sachant que sa mère et son frère étaient encore au cabaret, le pauvre garçon n'avait pu rentrer tout seul. Il lui avait fallu revenir sur cette place pour attendre que sa digne mère eût achevé de faire la fête avec les compagnons de son chérubin, comme elle appelait Jacques. Le rémouleur, en voyant pleurer ainsi la jeune fille, eut un mouvement de compassion pour l'affliger. Il avait l'âme compatissante, ce Pierre, pauvre être qui avait lui aussi souffert depuis sa naissance, et l'attendrissement le gagnait à la vue de cette douleur dont il ne pouvait encore soupçonner la cause. Il allait interroger Louise, lorsque de nouveaux éclats de rire et des chants bachiques l'empêchèrent de donner suite à ce projet. C'étaient quelques compagnons de son frère Jacques qui sortaient du cabaret en état d'ébriété et fredonnant des refrains à boire. Deux d'entre eux s'approchaient en titubant, ce que voyant, Pierre eut bien voulu pouvoir emmener avec lui les jeunes filles pour épargner à celles-ci d'être accostées par les deux ivrognes. Mais le malheur voulut que celui qui marchait en tête eût aperçu Louise. Il s'élança vers elle en chantant à tue-tête. Et si le roi m'avait donné Paris, sa grande ville, et qu'il eût fallu quitter l'amour de mamie. Et, s'interrompant dès qu'il fut tout près de l'aveugle, « Tiens » fit-il avec un gros éclat de rire, « lave-la, mamie, c'est Rosalie !» Surprise, Louise avait jeté un cri de terreur en disant « Ah, laissez-moi, laissez-moi !» Mais l'ivrogne l'avait saisi par le bras et cherchait à l'entraîner vers son compagnon. Le rémouleur sentit la colère l'envahir. Il allait s'élancer sur le brutal qui s'attaquait ainsi à une pauvre jeune fille sans défense. À ce moment, le deuxième ivrogne arrivait. « Elle a l'air joliment en colère » fit-il. « Ta Rosalie !»« Bah !» répondit le premier. « Je vais la madouer un brin !» et cherchant à caresser de sa grosse main la joue de Louise. « Voyons, ma petite femme, faut faire une risette !» L'aveugle suffoquait. La terreur se joignait chez elle au dégoût. « Grâce, grâce !» s'exclama-t-elle en essayant de dégager son bras. Alors le second ivrogne eut, paraît-il, une lueur de raison, car il dit à son compagnon « Viens donc, je te dis que ce n'est pas ta Rosalie. Est-ce que je ne la connais pas, ta femme ?» Et il voulut entraîner son ami qui s'obstinait à crier. « mais oui, tu la connais, je sais bien. »« Pardier, je la connais mieux que toi, ta femme. » »« mais oui, je sais bien. » Il paraît que ce petit dialogue avait calmé la gaieté de l'ivrogne, car celui-ci passa la main sur son front, comme pour chasser quelques souvenirs désagréables, et il se laissa emmener. Pierre poussa un soupir de soulagement en voyant la jeune fille débarrassée de ses deux ivrognes. Le brave garçon aurait bien voulu se rapprocher d'elle, mais il n'osa le faire. Il allait se retirer dans la direction du pont neuf lorsqu'il entendit la jeune fille murmurer « Ils sont partis, Dieu soit loué !» Puis après un silence « Mais où aller maintenant? Que faire? Je ne sais pas, je ne sais pas !» Pour la seconde fois, un roulement de voiture l'ayant interrompu, Louise s'étant chancelant dirigée vers la droite. C'est par là qu'elle entendait venir le véhicule. « Une voiture » s'écrie-t-elle. « Mon Dieu, faites qu'elle me ramène ma sœur bien-aimée !» Louise eut un moment d'espoir. Hélas, la déception ne se fit pas attendre. Cette voiture traversa rapidement le pont et s'en alla à fond de train. La pauvre aveugle écoute encore que déjà le roulement ne se fait plus entendre. Louise est restée immobile et comme rivée à la même place. Un frisson lui a glacé le cœur. La terreur s'empare d'elle. La malheureuse sent que la force l'abandonnera bientôt. Ses jambes tremblent sous elle. Elle cherche, en tâtonnant dans le vide, à retrouver le banc dont elle s'est éloignée. Que va-t-il lui arriver? Son sang lui afflue au cœur et des battements sourds résonnent dans son cerveau. Elle n'a plus de larmes. De sa poitrine oppressée s'échappent des soupirs étouffés. Elle ne peut plus en douter. On a enlevé Henriette. Sa sœur est maintenant peut-être bien loin, bien loin. Qui sait si elle la retrouvera jamais? Cette pensée la rend folle. Et dans l'horrible situation où elle se trouve, elle se demande s'il lui reste un autre refuge que la mort. La malheureuse aveugle en arrivait à un tel degré de désespoir qu'elle oubliait jusqu'aux pieuses leçons dont on avait bercé son enfance, jusqu'aux sages paroles qu'elle-même adressait tout à l'heure à Marianne Vautier. Elle, qui naguère encore, s'écriait « Le suicide est un crime !» Elle se demandait s'il ne valait pas mieux se traîner à tâtons jusqu'au parapet et s'élancer dans le fleuve. Elle se sentait perdue, sans espoir. Pierre se décida à se rapprocher d'elle. « Pourquoi ne vous retirez-vous pas, mademoiselle ?» lui dit-il. « Est-ce que ce n'est pas bientôt l'heure de rentrer chez vous ?»« Quelle heure est-il donc ?» demanda Louise. « Il est tard, bien tard, mademoiselle. Je n'ai pas de montre, mais je crois bien qu'il est tout près de 9 heures. »« 9 heures ?» s'exclama Louise en joignant les mains. « Et puis, reprit le rémouleur, j'ignore ce que vous faites ici, mais si vous attendiez... »« Quoi ?» interrompit vivement la jeune fille que cette question avait frappée. Pierre craignit d'avoir, sans le vouloir, offensé son interlocutrice. Aussi n'osa-t-il répondre. Et comme il gardait le silence, ce fut Louise qui entama de nouveau la conversation par ces mots. « Je n'ai pas besoin de vous demander si c'est vous... Je vous reconnais bien à la voix. Oui, c'est vous qui m'avez sauvé quand j'allais être écrasée. »« Vous m'avez reconnue? À la voix ?» fit Pierre étonné. Et il répétait comme en aparté. « À la voix. » « Hélas, monsieur, je ne pourrais vous reconnaître autrement. Je suis aveugle. »« Je vous demande excuse, mademoiselle, » répondit doucement Pierre. « Je n'ai pas voulu vous offenser. Bien au contraire, je m'intéresse à vous. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner, je suis là, mademoiselle, et vous pourrez compter sur moi. » Il avait parlé d'une voix si émue que Louise eut confiance en cet étranger que le hasard avait envoyé à son secours. Elle allait très probablement raconter à Pierre tout ce qui lui était arrivé depuis qu'elle était descendue, avec Henriette, de la rotonde du Coche-d'Evreux. Il lui semblait qu'elle était en sûreté auprès de cet homme, qui ne lui parlait cependant que depuis quelques instants. « J'ai confiance en vous, monsieur, » reprit-elle. « Quelque chose me dit que vous êtes honnête et bon. »« Oui, » ajouta-t-elle après un court silence, « je sens que vous ne m'abandonnerez pas au triste sort que je subis. » et qui m'avait poussé aux résolutions les plus désespérées. Le rémouleur ne savait plus que répondre. Le pauvre diable subissait malgré lui l'influence de cette voix si persuasive et si touchante. C'était la première fois qu'on lui parlait avec tant de douceur. Il en était tout heureux et embarrassé en même temps. Comment allait-il répondre à la confiance qu'on lui témoignait? Certes, il avait toute la bonne volonté possible d'être utile à cet enfant qu'il implorait, mais que pourrait-il faire? Quelle protection pourrait-il offrir à la jeune fille? Il avait maintenant la certitude qu'il se trouvait en présence de quelque grande infortune qu'il serait, hélas, impuissant à soulager. Jamais le bon naturel du rémouleur ne s'était encore trouvé à pareille épreuve. Lui, dont l'existence n'avait été jusque-là qu'une succession de mauvais traitements de la part des siens, en récompense du travail dont on lui volait chaque jour le prix, il ne comprenait pas qu'on pût le croire digne d'affection et de respect. Aussi éprouvait-il un sentiment étrange à s'entendre appeler « monsieur », comme s'il eût été un homme comme tout le monde. Il avait eu, dans le premier élan de son cœur, la volonté d'être utile à une inconnue, et il regrettait presque de s'être autant avancé. Comment reculer maintenant? N'avait-il pas dit « Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous venir en aide, je suis là, mamselle, et vous pourrez compter sur moi. » Eh bien, elle comptait sur lui. Qu'allait-il faire? Ah, s'il eût été son propre maître! S'il eût pu se débarrasser du joug que lui avaient imposé son frère Jacques et sa mère, il n'eût pas hésité à emmener cette inconnue en quelque lieu sûr, où elle eût pu convenablement passer la nuit. Et, dès le jour venu, il se serait occupé de savoir qui elle était, si elle avait une famille, et en tout cas de lui indiquer ce qu'il fallait faire pour obtenir un secours. Mais le pauvre Pierre était loin de pouvoir disposer de lui-même. Et, en réfléchissant que la Frochard n'allait pas tarder sans doute à arriver, Pierre se sentit tout troublé. Disons-le, enfin, le rémouleur avait honte de sa mère. Il lui paraissait douloureux qu'on sût qu'il était, lui, le travailleur assidu et honnête, le fils de la mendiante. Un pressentiment secret lui conseillait, d'ailleurs, d'éviter à la jeune fille le contact de la Frochard. Il allait pour cela emmener la malheureuse enfant, qui s'était placée sous sa protection, dans une auberge du voisinage. Il travaillait souvent pour l'aubergiste, et en quelques mots, il le mettrait au courant de la situation. Ayant pris cette résolution, Pierre fut pressé de s'éloigner du cabaret où l'orgie continuait à rugir. En effet, la croisée était entrebâillée et l'on pouvait entendre les refrains chantés par des voix enrouées. C'était un tohu-bohu de vociférations, d'éclats de rire, s'alternant avec le choc des assiettes contre les tables et le cliquetis des couteaux frappant avec rage contre les gobelets d'étain. De l'endroit où il se trouvait, le rémouleur pouvait même apercevoir les silhouettes des convives de cet ignoble festin, se dessinant derrière la vitre à la façon des ombres chinoises. Ce spectacle écœura le brave garçon, d'autant plus qu'il avait, parmi tous ses ivrognes, distingué une silhouette de femme. Et cette femme n'était autre que la Frochard. C'était sa mère qui, le gobelet en main, répondait à quelques propos graveleux et tenait tête à tous ses garnements, ivres, titubants et puant le vin. Pierre détourna les yeux de ce spectacle qui lui faisait monter le rouge au front, et plus que jamais, il se dit qu'il fallait empêcher que la Frochard se trouvât avec la jeune fille. Pour commencer, il lui avait pris doucement la main qu'il fit mine de vouloir passer sous son bras. Louise n'opposa aucune résistance. N'avait-elle pas confiance en lui, ainsi qu'elle le lui avait dit? « Où allons-nous » demanda-t-elle simplement. « Car vous consentez à me secourir ?» Pierre était sur le point de répondre. Mais au moment où il se disposait à parler, il éprouva une commotion violente. La parole expira sur ses lèvres, et il fit un brusque mouvement pour dégager de dessous son bras la main que la jeune fille lui avait abandonnée sans la moindre méfiance. Et vivement il s'éloigna d'elle. Étonnée de ce changement auquel elle s'était si peu attendue, l'aveugle s'écria toute tremblante. « Qu'y a-t-il donc, monsieur? Pourquoi vous éloignez-vous de moi ?» Mais ce ne fut pas Pierre qui lui répondit. Ce fut une voix qu'elle entendait pour la première fois, une voix éraillée, criarde, qui la fit tressaillir. C'était une voix avinée qui criait « Hé, l'avorton, qu'est-ce que tu fais donc là? Hé, l'honnête homme, y aura là-haut des couteaux à repasser demain. Nous les avons joliment ébréchés, va, l'avorton. »